très heureuse de vous accueillir au monastère. Le Carmel de Montmartre, qui n'est pas si connu que ça, enfin qui existe depuis 1928, ici, derrière le Sacré-Cœur. Voilà, c'était un projet depuis la fondation du Sacré-Cœur, en fait, ce que beaucoup ignorent, mais les cardinaux de Paris successifs qui ont voulu accompagner la construction du Sacré-Cœur, qui, comme vous le savez, est lié à un vœu national qui dépassait Paris, mais voilà. Donc les cardinaux de Paris ont vraiment voulu qu'il y ait un monastère contemplatif derrière le Sacré-Cœur, enfin, à côté. Donc le dernier cardinal qui a accompagné ça, c'était le cardinal Hamet, qui, dans les années 1910, je ne suis pas historienne de l'Église, mais dans ces eaux-là. Et donc il était de Lisieux, donc il a voulu un Carmel. Voilà. Et donc il est allé voir les carmélites de Paray-le-Monial, cité du Sacré-Cœur, pour leur demander des carmélites pour fonder ici. Voilà. Et c'était en 1913. Alors, comme vous savez, après il y a eu des petits événements. Donc de 14 à 18, ça a été un peu en stand-by. Et après, ils ont commencé à construire le monastère. Et aussi grâce à plein de dons de femmes qui avaient fait des vœux si leur mari, si leur fils revenait de la guerre, elles allaient participer à la construction du monastère. Donc, et la première messe a été dite en 1928. Voilà, pour vous dire que ça a pris du temps, 10 ans pour avoir le terrain parcelle par parcelle, et puis pour construire le monastère grâce à des bienfaiteurs. Voilà. Et en 1928, le 6 juillet, c'était la première messe. Depuis Sainte-Thérèse de Jésus, vous savez, les dates de fondation des Carmels, c'est la première messe. Voilà. Donc, c'est ça qui représente la date. Et depuis, on essaie de vivre la prière. Le désert, entre guillemets, en plein cœur de Paris, ce qui est un sacré challenge. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, ce qui compte, c'est ce que vous portez en vous, ce que vous avez envie de poser comme question, de dire votre recherche à vous, je sais pas, sur la prière, sur le Seigneur, sur...
Quelle est la place de l'attente dans la spiritualité des carmélites, dans le fait que vous passez beaucoup de temps en oraison, dans la vie contemplative, et en quoi c'est une attente de Dieu, en fait?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si intuitivement j'aurais parlé d'attente, en fait, peut-être prétentieusement, mais enfin, dans la devise du Carmel, vous savez, le Carmel médiéval disait que c'était le prophète Élie son fondateur, ce qui était peut-être un pied de nez aux historiens, mais qui en tout cas avait du sens spirituellement. Et donc Élie, dans le livre des rois, dit: il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens. Et c'est la devise un peu du Carmel, c'est pour et donc vous voyez, c'est au présent, en fait, quelque part, c'est là, présentement, le Christ est là, pas seulement en statue, mais en présence réelle, j'oserais dire. Voilà. Donc, c'est vraiment ce regard de foi, je pense, enfin, cette attention, au sens de Simone Veil, une attention qui détecte la présence de celui qu'on aime et qui fait que, voilà, il est là, on sait qu'il est là, des fois on sent qu'il est là, d'autres fois on ne le sent pas. Mais par un acte de foi, on sait que ça lui fait plaisir si on est là avec lui, quoi. Enfin, si on lui dit qu'on est là. Voilà, donc je pense que c'est ça. Après, attente, oui, on attend toujours le Messie. On attend toujours son retour au glorieux, enfin, sa venue glorieuse. Les théologiens ne seraient pas contents que je dise retour, mais Dieu vient toujours, il ne revient jamais, parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. Il ne revient jamais comme on l'attend. Il ne revient jamais deux fois à l'identique. C'est toujours du neuf avec lui. Mais voilà, il vient, ça c'est sûr. Donc il y a une forme d'attente de sa venue, parce qu'il vient toujours et il nous surprend toujours. Mais je pense que c'est un peu ça, la prière. Donc il y a peut-être les deux aspects, en fait, pour répondre. Je pense qu'il y a la joie de sa présence, la joie dans la foi de sa présence, et le fait qu'on est là pour tous, on se tient devant lui pour tous, au nom de tous, pour prier pour tous, pour porter les prières ou les soucis de tous. Et puis il y a aussi l'aspect de l'attente, de fait, au sens où on attend sa manifestation glorieuse, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Et donc c'est vrai que le Carmel tel que l'a renouvelé Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle, c'est vraiment ces deux intuitions, c'est vraiment les deux temps d'oraison silencieuses, donc une heure le matin, une heure l'après-midi, enfin toutes les 12 heures, si vous voulez, c'est comme un carburant, toutes les 12 heures, on fait une heure d'oraison. Voilà, donc ça rythme le jour et ça nous apprend à écouter, je pense, à essayer de percevoir sa présence. Et l'autre rythme qui correspond, en fait, c'est des temps de récréation. Les enfants aiment bien quand je dis ça. Les temps de rencontre que vous faites là, de rencontre fraternelle entre sœurs. Et là aussi, on a deux temps. On se retrouve ensemble pour discuter à bâton rompu, ce qui n'existe pas du tout dans la vie monastique avant Sainte Thérèse. Elle a beaucoup bataillé pour le faire établir, d'ailleurs. Enfin, les deux. Et je pense que ça marque profondément, et c'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire une grande humanité. Et donc il y a l'amour de Dieu, il y a l'écoute de Dieu dans le silence, mais on est ensemble, mais dans le silence, donc on écoute Dieu dans le silence, ensemble. Et puis la récréation, c'est on est ensemble à papoter, mais on cherche à écouter Dieu aussi, quoi, à le rencontrer. Peut-être un peu comme votre rencontre de ce soir. Et voilà, c'est bien d'être ensemble, mais en fait c'est pour essayer de voir où Dieu est, comment il parle, comment il se manifeste. Voilà. Donc en fait, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, si je puis dire, d'une même médaille. Voilà. Ça, c'est les deux intuitions de Sainte Thérèse d'Avila, où voilà, au XVIe siècle, elle a quand même beaucoup bataillé, parce que l'oraison, comme vous savez, n'était pas très bien vue de l'Inquisition, qui considérait que c'était voilà, des imaginations de femmes qui risquaient de s'emballer, et donc voilà. L'illuminisme n'était pas loin, le contact direct avec Dieu était suspect, enfin bon, l'Église était assez réticente, surtout pour les femmes. Donc Sainte Thérèse a beaucoup bataillé contre les théologiens dominicains qui, voilà, qui craignaient un peu pour l'orthodoxie de sa démarche. Et puis pour la récréation, ça ne faisait pas sérieux en fait dans le monde monastique de dire que des femmes allaient se retrouver de manière régulière pour papoter, n'est-ce pas ? Ça ne faisait pas sérieux. Et donc ça, elle a dû batailler même contre les frères carmes, les religieux de son propre ordre, qui trouvaient que voilà, ça n'allait pas comme pour du bavardage, on n'allait comme pas déplacer le grand silence du soir. Voilà. Donc elle a beaucoup bataillé, donc voilà, beaucoup de choses peuvent changer au Carmel, mais ces deux points, elle a tellement bataillé qu'on sait qu'elle y tenait, quoi. Donc c'est sa démarche très concrète, en fait. Si on aime Dieu, on prend du temps pour lui, en fait. Et puis ensemble avec les autres, parce que comme ça c'est pas mon petit ego, enfin un solo avec mon Jésus. Et donc non, c'est prendre conscience que le corps du Christ, enfin la présence du Christ, elle est aussi ensemble. Et puis de même, voilà, la récréation, les temps fraternels, on est ensemble, mais en fait pour comprendre qu'en fait Dieu est là au milieu de nous. Et donc voilà, ça fait écho les deux, vous voyez. Donc amour de Dieu, amour de prochain, comme elle dit. Et de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à pratiquer et inventer, mais voilà, c'est sa petite technique, enfin c'est sa marque de fabrique, c'est voilà, sa pédagogie, c'est ça en fait. Et puis je pense qu'il y a récréation et oraison jusqu'à ce que, comme ça se mélange dans la journée, quoi, un peu comme des exercices d'orthoptiste, vous savez, au fur et à mesure on voit deux, quoi, oraison, récréation, puis après tout, normalement on finit par voir un, quoi. Dieu en tout et en tous, comme elle dit, voilà. Donc, après avoir fait beaucoup d'exercices ophtalmiques, voilà, on arrive à voir que finalement, amour de Dieu, amour du prochain, c'est un sale amour, quoi. Alors que sinon, on peut séparer, quoi. On peut avoir tendance à séparer. Voilà. Donc c'est ça, en fait. Donc oui, l'attente de Dieu, mais c'est plus, en fait, l'attente, c'est plutôt Dieu qui nous attend. C'est plutôt Dieu qui nous attend. Lui, il est là, et il nous attend, et puis nous, c'est Rabbi Mendele de Kotsk, un des grands rabbins, il disait Dieu est partout, mais c'est quand même étrange qu'on soit si souvent ailleurs. Voilà. Donc Dieu est partout, mais nous on est ailleurs. Chercher à définir cet ailleurs, mais voilà. Donc revenir de cet ailleurs, c'est ça tout l'enjeu, je pense, de la prière, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est notre mission en Carmel, d'essayer de vivre cette prière continuelle. On est aussi pauvres que les autres. Aussi pauvres.
J'ai une question. Vous êtes juste à côté du Sacré-Cœur, vous avez été construit à côté exprès, mais est-ce que vous avez un lien plus que ce lien géographique et plutôt spirituel avec le Sacré-Cœur ?
Alors oui. oui, on a un lien. Alors, on est le Carmel du Sacré-Cœur. Alors, c'est vrai que c'est un peu dans notre mission. Chaque communauté du Carmel est implantée dans un endroit et cet endroit donne un peu la mission, forcément. Après, on n'y va pas, si je puis dire. Enfin, concrètement, j'y suis allée une fois en 25 ans. Ça reste, vous voyez, assez limité. Et encore, il y avait les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse. Mais il y a des liens parce que c'est les chapelains qui nous disent la messe, parce qu'il y a des gens qui viennent, parce qu'il y a des groupes viennent partager notre prière. En fait, le Sacré-Cœur attire beaucoup de gens divers et variés, y compris des gens très loin de l'Église ou très loin d'eux-mêmes, je ne sais pas comment dire. Et donc, des fois, bon, même s'il y a plus de 12 millions de visiteurs par an au Sacré-Cœur, enfin, avant le Covid, et donc, ben, y en a peut-être un sur 10 000 qui frappe à la porte du monastère, mais voilà, c'est toujours des rencontres très significatives, quoi. Des gens qui viennent de province confesser beaucoup de choses, qui ne sont pas confessés depuis 30 ans, des recommençants, des juifs, des musulmans, des athées, enfin, des gens qui ont commis des choses assez atroces. Et c'est qu'à le dire, ils tournent autour du pot, ils tournent autour du Sacré-Cœur avant de se confesser, ou, voilà. Ou des prêtres d'ailleurs, des fois, qui n'osent pas se confesser parce qu'ils vont au Carmel, enfin bon, bref. Mais voilà, donc c'est vrai que ça donne quelque chose de particulier. Enfin, c'est une présence, c'est autre chose d'être un Carmel. Enfin voilà, on est un Carmel du Sacré-Cœur, près du Sacré-Cœur. Ça donne quelque chose, je pense, à vivre. En fait, ici, même géographiquement, vous voyez, on est plus proche du Saint-Sacrement que les gens qui sont à l'entrée du Sacré-Cœur. Quoi. Donc, il y a, si on croit au rayonnement, même si ce n'est pas un rayonnement physique, inversement proportionnel à la distance, ou au carré de la distance, mais quand même, il y a quelque chose. Quoi. Voilà, donc il y a quelque chose. Et puis on le voit, nous, on voit le Sacré-Cœur. On voit le campanile, donc il y a quelque chose qui nous marque. Et on voit tout Paris, on est terrasse, donc on voit tout Paris, et puis le nord plutôt, Saint-Denis, etc. Donc il y a un aspect d'intercession pour la ville, pour tous les gens qui sont là, qui est très fort. Je pense qu'on vit, enfin, toute la vie, tous les moines et les moniales le vivent, mais voilà, c'est pas la même chose quand on est perdu dans la campagne, sans voir personne. Bon, alors on est en plein cœur de Paris, à entendre les klaxons, les boîtes de nuit, enfin les sorties de boîtes de nuit, ou les matchs de foot. Enfin, voilà. Ça met dans l'ambiance, si vous voulez. Donc, voilà. C'est. Là, oui, pour vous faire rire, mais c'est vrai, quand. Alors, ça remonte maintenant, c'était la Coupe du Monde 98, je crois. En fait, on suivait, parce que comme tous les gens suivaient et avaient les fenêtres ouvertes et tout, en fait, on suivait forcément les matchs, quoi. On n'a pas la télé, hein, mais on suivait le match. C'est comme si on l'avait vu à la télé, quasiment. Parce qu'on sentait même les... Vous savez, les... bah, tout le monde faisait les mêmes dans tous les... Et donc, nous, ça faisait caisse de résonance. Et donc, au moment des matines, donc après les complis, il y a les matines à 21h10, là. Et au moment des matines, alors on entend les hurrahs des deux derniers matchs, là. Et donc la sœur qui était chantre, au lieu d'entonner la conclusion de l'office, quoi, bénissons le Seigneur, elle a entonné le Tédéum sous le regard furieux de la prieure qui n'a pas compris. Alors elle s'est retournée, puis elle a fait droit. Et alors, les jeunes, on s'est fait gronder comme pas possible. Enfin bon. Et puis le lendemain matin, c'était le père de Dinchin à l'époque, il n'était pas encore évêque, qui est venu nous célébrer la messe. Et à ce moment-là, il a fait toute son homélie sur la Coupe du Monde. Alors, il nous a fait notre revanche. On s'est dit, bon, c'est normal de suivre, il trouvait que c'était très bien et tout. Alors, mais c'est vrai qu'en fait, voilà, ça fait caisse de résonance. Donc, on le veuille ou non, on suit, je ne sais pas comment dire. Quoi. Vous voyez, au moment du confinement et tout, on entendait les ambulances, l'hôpital Bichat n'est pas loin, et donc, on suivait quoi, un peu. Ou les policiers, en fait, les policiers du quartier, ils passent, et des fois, même pendant le confinement, les gens, ils nous donnaient des intentions de prière, comme ça, ils nous les glissaient dans la boîte aux lettres. Et les policiers, parce que ça a été très très dur au 18e, le confinement, au niveau des violences entre jeunes, violences familiales, conjugales, enfin bon, voilà. Être confiné dans un tout petit espace à 8 ou à 6 ou à des familles nombreuses et tout, ça a été très dur. Il y a eu des morts de jeunes, mais d'un enfant de 9 ans qui est mort à coups de couteau. Enfin bon. Donc il y a eu beaucoup de violence. Donc les policiers venaient et puis nous... Donc voilà, on participe. Quoi. On n'est pas, hein, on n'est pas à la goutte d'or, mais on participe de ce combat-là. Donc forcément, voilà, d'être en plein Paris et puis derrière le Sacré-Cœur, ça change un peu notre manière de vivre. Quoi. On ne va pas être tranquille comme à la campagne, mais on va être vraiment plongé dans l'intercession pour la ville, pour les gens. Alors, oui, c'est-à-dire, quand on est. Enfin, l'appel, il est au Carmel, il est pour une communauté donnée, en fait. Enfin, je pense qu'on a d'abord l'appel à devenir carmélite ou à vivre la prière et tout. Mais après, il faut un peu un coup de foot, si je puis dire, pour une communauté en règle générale. Parce que chaque communauté a son style, une atmosphère un peu différente. Donc, c'est. C'est particulier, quoi. Des personnes qui peuvent peut-être être sentir. Enfin voilà, on le voit bien d'ailleurs. Il y a des jeunes femmes des fois qui viennent, et elles se disent oui, je veux être carmélite, mais pas ici, quoi. Enfin, veulent ou moniale, vivre la vie monastique, mais pas ici. Donc, voilà. C'est sûr que les monastères cisterciens, vous avez minimum 4 hectares. Enfin, c'est un genre un peu différent que. La concision parisienne. Voilà. Et au niveau du silence et tout. Mais alors voilà, vous voyez, quand vous entendez la ville, est-ce que ça vous empêche de prier ou est-ce que ça vous fait prier? Bon, c'est un bon critère de discernement pour être monial dans une ville. Si ça empêche de prier, vaut mieux être carmélite à Lisieux ou je sais pas. Oui, donc ça fait partie du discernement et ça fait partie de l'appel en fait. En quelque sorte un appel dans l'appel qui est au lieu même. Et nous, alors, on est la plupart des ordres monastiques, hein, mais on rentre dans une communauté et j'allais dire, si tout va bien, on y meurt. Quoi. Enfin, au bout d'un laps de temps, bien sûr. Mais... voilà, le but, c'est pas de changer. Enfin, normalement, dans sa vie, on ne change pas de communauté. C'est ça que je veux dire. Je parais très vieux jeu quand je dis ça. J'allais dire autant qu'on ne change pas d'homme une fois qu'on est marié ou de femme. Enfin, bon, voilà, voilà. Enfin, dans une vision catholique, traditionnelle, à contre-courant du monde moderne, voilà. C'est un engagement à vie. Quoi. Et donc aussi pour le lieu, normalement. Alors que les jésuites, je ne sais pas, par exemple, les congrégations apostoliques, vous rentrez dans la congrégation, mais après vous allez changer d'endroit en fonction des missions. Vous pouvez aller changer de pays, changer de communauté en fonction de la mission. Nous, notre mission, c'est de faire communauté, donc on n'en change pas, normalement. Voilà. Il faut une raison particulière pour en changer. Ou faire une fondation, ou au contraire, le Carmel ferme, on va dans d'autres. Enfin, voilà. Mais sinon, enfin, c'est ce qu'a voulu s'intéresser. D'ailleurs, on constitue vraiment une petite famille de... appelée par le Seigneur, et donc, ben, comme une famille, on ne change pas. Quoi. Enfin, on ne change pas de frères et sœurs, on peut bien se disputer avec eux. Justement parce qu'on n'en change pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu la même chose au Carmel. Voilà, donc normalement, on rentre dans un Carmel parce qu'on est attiré, je m'en parle, le lieu, par la communauté, par le style, et on y reste. À travers tout. Et c'est ce que Sainte-Thérèse a voulu, parce qu'un des autres points de sa réforme qui était très original à l'époque, qui paraît peut-être moins maintenant, c'est qu'elle voulait vraiment des petites communautés. Donc au début, elle a dit 13 maximum. Or, 13, c'était un peu le romantisme de Thérèse, parce que ça faisait Jésus et les 12 apôtres. Donc 1 plus 12, n'est-ce pas, 13. Et puis après, elle s'est dit, c'est un peu juste quand les sœurs vieillissent, quand il y a des malades et tout. Donc elle est allée jusqu'à 20 et une de plus, si elle est très très bien. Donc nous, on a compris, n'est-ce pas, 21. Voilà. Mais c'est un des rares ordres, enfin je crois le seul, mais je ne mettrai pas ma main à couper, je ne suis pas spécialiste, mais c'est un des rares ordres où il y a un nombre maximum. Vous voyez, les bénédictins, ils peuvent être de 4 à 350, pas de problème. Quoi. Alors que nous, notre style de vie, comme c'est familial, qu'on doit parler entre nous autour de la table, chapitre, chacune prend la parole, discute, on ne peut pas être nombreuses, on ne peut pas être trop nombreuses. Quoi. Et puis pour garder voilà, un style, oui, elle veut un style très simple, très fraternel, elle dit toutes sont égales. Toutes sont filles de Dieu, toutes sont égales dans le Christ, donc elle ne veut pas de hiérarchie trop imposante, de structure pyramidale, etc. Donc il faut un petit collège du Christ, comme elle dit, quoi. Donc un petit nombre, ça fait partie. Et l'avantage du petit nombre, comme elle le dit, c'est que voilà, ça peut aller dans une ville, pas de problème, enfin, c'est facile de fonder, il faut des maisons normales, enfin, il n'y a pas besoin de grands parcs, de grands espaces, c'est pas compliqué, quoi, voilà. Ou pas compliqué de changer quand au début des fondations on s'intéresse, dit oh, cette maison elle est pas très bien, et donc elle déplace toute la communauté ensemble, hein, mais se déplace à un autre bout de Tolède ou à un autre bout de Ségovie, je sais pas quoi. Bon, ben 20. Alors, à l'époque, ça va vous faire frémir peut-être, mais enfin, à l'époque c'était une famille nombreuse, quoi. En gros, la mère de Thérèse, elle a eu, je sais plus, 15 enfants. Alors, pas mal sont morts en bas âge. Mais pour une femme, avoir 15 enfants, c'était pas anormal, quoi. Ça faisait pas la une des journaux. Je pense à l'heure actuelle, enfin, si vous en avez 15, vous ferez la une des journaux. Mais voilà. Donc pour elle, c'était une petite famille, enfin une famille, un modèle familial de vie monastique qui permet d'être pauvre et qui permet d'être un peu tout terrain, j'allais dire, de s'implanter en pleine ville, justement. Voilà. Ça, c'est un peu le projet de Sainte Thérèse. Bon, après, elle n'avait pas peut-être prévu les mégapoles comme Paris. Mais... Donc, et nous, on est un peu sur la hauteur. Donc, l'avantage du Sacré-Cœur, c'est qu'a priori, on est protégé des... Ils ne vont pas faire un building. Enfin, on ne sait jamais. Mais enfin, a priori, ils ne vont pas faire de building à 10 mètres du Sacré-Cœur. Donc, c'est bien pour nous, parce que sinon... Beaucoup de carmels ont été chassés, ou de monastères, ont été chassés des centres-villes là, dans les dernières 40 années, parce que ben, y avait des immeubles qui poussaient tout autour du petit jardin des sœurs. Donc, après, votre clôture est très relative. Comme dans les dessins de Saint-Pé, vous savez, vous avez un petit jardin, puis plein d'immeubles tout autour. Vous dites, bon, je plante mon chou, mais je suis observée. Donc les Clarisses qui étaient en plein 16e, là, elles ont dû partir, par exemple, à Senlis, enfin, se sont exilés, beaucoup de monastères se sont exilés, même quand c'était leur vocation, parce que Clarisse Carmélite, on est ordre mendiant, donc on est plutôt dans les villes, quoi. Parce que vous voulez que les gens vous donnent des choses, il ne faut pas se mettre à 100 km quoi, du centre-ville. Donc voilà. La tradition des Clarisses et des Carmélites, c'est plutôt d'être dans les villes et d'être en lien avec la population. Voilà. Mais nous, on peut rester à Fourvière, elles sont sur la colline de Fourvière, enfin, il y a des cas, c'est pratique d'être à côté d'une basilique, d'une grande église ou sur une petite montagne protégée. Et c'est un peu notre vocation, quoi, d'être sur la montagne, puisqu'on est du Mont Carmel, comme chacun sait, c'est la seule montagne d'Israël, promontoire. Être plus traditionnel.
Est-ce que vous avez, enfin, quelles sont les règles au niveau du contact avec l'extérieur et d'ailleurs les règles en général, enfin, si vous voulez parler d'autres règles.
Ah, alors ce qu'on appelle la règle, hein, c'est le premier texte en fait qui, mais en fait notre règle du Carmel qui date du 12e-13e siècle ne donne aucune règle au sens de qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi, si je puis dire. À part qu'on peut avoir des poulets si on en a besoin, enfin, mais sinon ça donne plutôt de la substance spirituelle, on va dire. Voilà, il faut méditer jour et nuit la loi du Seigneur. Ça va être un texte. Il faut faire allégeance au Christ, hein, être dans la dépendance de Jésus-Christ et combattre le bon combat de la foi avec les armes de la foi. Enfin voilà, ça, c'est un petit texte très court qui a traversé les siècles d'ailleurs, mais parce qu'il donne la mission de prier et les règles du combat spirituel et l'unité de la communauté autour de ce noyau, quoi. Donc vous voyez ça, mais ça donne aucune règle pratique. Et puis après on a ce qu'on appelle les constitutions, la plupart des ordres religieux, et ça, les constitutions, c'est ce qui dit pratiquement, je pense, votre question, comment on vit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Donc alors c'est sûr qu'on est on fait partie des moniales cloîtrées qui sont en clôture. On ne va pas se promener, on ne part pas en vacances, on ne va pas au cinéma le soir, ni au resto d'ailleurs, enfin, quand les restos sont ouverts. Enfin bon, voilà. Disons que c'est une clôture dites papales, c'est-à-dire protégées par le pape en personne, ce qui au Moyen-Âge était très bien, parce que même les évêques ne pouvaient pas y contrevenir. Mais ça veut dire que vraiment c'est protégé, et donc on est en retrait, on se veut en retrait du monde, quoi. Donc les contacts avec la famille, en fait, c'est la famille qui vient à nous d'abord, et puis ensuite c'est pour les parents, c'est une fois par mois maximum qui peuvent venir. Enfin, donc c'est oui, c'est après il n'y a pas de règles au sens, c'est pas la même chose d'avoir des parents. On a une sœur qui est de Wallis, donc forcément quand les parents viennent, ils ont fait 22 000 km, on ne va pas leur dire c'est une heure de parloir, merci, au revoir. Parce que c'est 22 heures, je pense, d'avion, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais donc, après, les règles varient, mais c'est sûr que notre appel, c'est d'aller au désert ou d'implanter le désert en pleine ville. Donc si on est tout le temps à parler, il manquera quelque chose de silence contemplatif, quoi. Donc chaque sœur sent un peu intuitivement là où elle peut aller. On cherche à rentrer dans le désert, quoi, donc, ou à attirer les gens vers le Christ, donc, en se retirant. Donc, et après, donc, depuis le Concile, enfin, et puis depuis les nouvelles constitutions conciliaires qui datent des années 90, et puis là, les textes du pape François sur la vie contemplative féminine. Donc c'est une démarche où, de fait, c'est... Alors, il y a les règles, les constitutions qui sont là à appliquer, mais après, c'est chaque communauté qui discute. On discute entre nous pour savoir comment on veut vivre ce point-là, qu'est-ce qu'on cherche à vivre, comment on fait... Voilà. Donc c'est une démarche aussi synodale, pour utiliser un mot à la mode. Mais vraiment, enfin, la vie contemplative est par définition synodale, parce qu'on discute et on cherche à vivre comment vivre ce retrait, comment... manifester aussi la solitude de Dieu envers les gens, quoi. Donc, c'est sûr que la clôture, c'est, enfin, pour moi, c'est pas couper les relations avec l'extérieur, mais c'est plus passer ces relations dans le Christ, en fait, les vivre dans le Christ, à travers le Christ. Donc accueillir finalement les gens qui viennent, et pas j'ai envie de téléphoner à ma meilleure copine, donc je décroche. Bah non, ça, on le fait pas, en fait, voyez. Mais par contre, accueillir la personne qui nous est envoyée, en fait. Donc c'est le Christ qui a l'initiative, en fait, des relations. C'est plus moi. Vous voyez, donc ça change. Et à ce niveau-là, oui, il y a une forme de clôture.
Voilà. Enfin, je disais pas du tout ça parce que j'ai peur de quelqu'un.
Non, non, c'est pour expliquer, parce que souvent, il y a... Ouais, il y a...
Mais du coup, est-ce que vous avez des règles locales particulières?
Non, bah l'horaire, enfin, l'horaire, c'est assez universel, voilà, avec ce rythme de l'oraison, de la récréation, du travail entre ces temps-là. Est-ce qu'on a des règles particulières? Ce qui est un peu particulier, peut-être, comme vous avez vu, on a une petite chapelle. Il y a des monastères qui ont des églises beaucoup plus grandes, qui accueillent le dimanche 100 personnes, 200 personnes. Nous, dans Paris, il y a assez d'églises. Donc, voilà, c'est un peu plus... Et on accueille peu, parce qu'on a peu de place, en fait. Donc, voilà, on n'a pas... Enfin, et puis les sœurs bénédictines à côté, hein, immense accueil, immense hôtellerie. Donc, voilà, ça, c'est un peu spécial. Sinon, est-ce qu'on a des règles particulières? Je ne sais pas. En fait, c'est la pauvreté en espace qui transforme un peu notre vie. Dans le sens où, il y a peut-être 20 ans, on a fait le choix, pour garder nos sœurs âgées qui étaient âgées avec nous, on a fait le choix, par exemple, d'agrandir l'infirmerie, et donc il nous fallait des choses au rez-de-chaussée. Donc on a pris la salle de chapitre. Vous savez, dans un monastère, la salle de chapitre, c'est important, c'est vraiment l'Assemblée nationale, enfin, c'est vraiment le lieu de conciliabule. Voilà. Et donc, comme on l'a pris dans l'infirmerie, en fait, ce qui est la salle de récréation, notre salle... est devenue aussi salle de chapitre. Ça, c'est assez original, voilà. Parce que ça demande, enfin, faut pas confondre les deux, ça demande, vous voyez, de vivre des choses très différentes dans le même lieu, ça demande un peu de... enfin, je sais pas comment dire, de...
Discipline.
Oui, discipline, et puis de... On est obligé de vivre les choses plus densément, j'allais dire, à l'intérieur. Voilà. Donc, le fait que les lieux soient très condensés, c'est sûr que ça donne un certain... Et puis des règles peut-être un peu spéciales, mais vous voyez, au cœur, on a peu de place, donc forcément, il y a une... Enfin, voilà. Je ne sais pas si on a des règles vraiment spéciales.
Et le travail, vous avez mentionné le travail,
alors le travail, on est en train un peu d'évoluer, si je puis dire. Jusqu'à très récemment, un de nos principaux travaux, c'était les layettes pour petits-enfants, de la naissance jusqu'à 2 ans. Voilà. Et on vendait ça dans les magasins monastiques. Bah, comme ça, on prie pour la nouvelle génération.
C'est quoi les layettes ?
Bah, des tricots aussi bien grenouillères, manteaux, gilets. Voilà. Et donc, bah voilà, de la naissance à 2 ans, enfin 6 mois, naissance, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, comme les enfants grandissent vite. Voilà. Mais on est en train d'évoluer parce que c'était pas forcément super bien payé, puis ça demande du temps en fait. Puis les sœurs qui rentrent ne sont pas forcément des super as en couture, quoi. Donc voilà. Donc on est en train d'évoluer un peu. Et donc maintenant, on continue un peu. Parce que voilà, ça fait du lien aussi avec les familles et les familles qui nous demandent. Mais on évolue vers soit l'informatique, enfin pour des associations, on fait du routage, des saisies, des mises à jour de fichiers, des choses comme ça. Et puis, du mailing, ça change un peu. Bam. Voilà. Et puis sinon, de l'artisanat monastique, mais ça dépend un peu des sœurs, justement, quand elles arrivent, ou ce à quoi elles se mettent, même si elles n'ont pas de compétences au départ, mais qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Et donc, voilà, on fait pas mal de chapelets, y compris, il y a une sœur, 2 sœurs maintenant, qui font des chapelets avec des nœuds, vous savez, à la russe, si je puis dire. Hein. Mais ils sont... des chapelets catholiques, si je puis dire, c'est pas comme les moines orthodoxes, mais quand même fait à l'orthodoxe. Voilà. Et puis des chapelets tout court, enfin designés. Et puis des bougies décorées ou qu'on personnalise pour les baptêmes, les mariages. Il y a pas mal de demandes. Et, qu'est-ce qu'on fait encore? Des cartes. Et puis bon, il y a des sœurs qui écrivent des icônes, des sœurs qui peigne de la soie, enfin voyez, mais ça c'est, il faut, enfin chacune arrive un peu avec son, soit sa compétence, soit son envie de développer une compétence. Il y a des modelages aussi, des sœurs qui font des crèches en argile, ça part, enfin on n'arrive pas à fournir la demande, mais voilà, on fait ce qu'on peut en fonction. Mais c'est vrai qu'on, enfin je sais pas combien d'heures. Mais le travail rémunéré ne fait qu'une petite partie de notre travail, en fait. Parce que rien que de s'occuper des sœurs âgées, de former les plus jeunes, de s'occuper de la maison, de faire travailler au jardin, parce qu'on fait nos légumes et on a des arbres fruitiers et tout. Donc tout ça, ça demande pas mal de temps, quoi. Et c'est heureux comme travail. Donc, voilà. Donc le travail rémunéré est une assez petite part de notre activité, quoi. Les sœurs travaillent toute la journée, mais peut-être 2 heures de travail rémunéré, enfin, ça dépend desquelles, quoi. Donc on travaille pas mal, enfin notre fille est assez active. Puis on fait la cuisine, on fait tout, enfin il n'y a personne. Parce que c'est des monastères, on a des, je sais pas, des jardiniers, des hommes à tout faire, même le bricolage on le fait, la cuisine on le fait, le jardin on le fait, la taille des arbres fruitiers on l'a fait, et vraiment tout quoi. On a un tout petit terrain, enfin si vous voyez c'est vraiment juste... Enfin, vue d'avion, il y a des cartes postales. C'est vraiment... même pas 1 hectare, terrain compris. Enfin, terrain du bâtiment compris, je veux dire. C'est vraiment un tout petit terrain. Mais il y a quand même 50 d'arbres fruitiers. Donc, et quand vous bêchez les champs ou que vous devez remonter la terre, parce que comme c'est en pente, la terre descend. Donc, on la remonte, vous voyez. C'est un travail monastique de base. Donc, voilà. Il y a une fois, il y avait eu... c'est quand, en 99, il y avait eu des tempêtes et tout avait dévalé. Donc, c'était retrouvé toute la terre contre le mur de clôture... Et puis quand ça, on avait tout remonté avec des brouettes, etc. Et puis quand ça avait poussé, alors c'était super parce qu'il y avait un poireau à côté d'une carotte qui disait bonjour à la pomme de terre. Enfin, tous les champs étaient mélangés, c'était incroyable. On aurait voulu faire ça, on n'aurait pas pu. Mais voilà. Donc ça, le jardin, ça, c'est, enfin pour nous, c'est une activité assez bienfaisante et puis qui donne de l'espace, si je peux dire. Ça, n'importe quel jardinier vous dira ça. Quand on regarde, vue d'avion, le jardin paraît tout petit, mais quand on doit bêcher et désherber, alors là, on trouve que finalement, il y a l'espace. C'est une façon d'agrandir notre monastère qui est très efficace. Voilà. Là, il y a eu les élagueurs qui sont venus. Vous n'avez peut-être pas vu, parce qu'avec l'obscurité, mais il y a les élagueurs qui sont venus. Ils ont fait à peu près un arbre sur un des grands... Et donc, ils nous ont donné les copeaux de bois. Donc, ça, on avait une pyramide de copeaux de bois. Donc, tout le matin, on a, avec des seaux, on a réparti les copeaux de bois dans les composts et dans les champs. Bon, c'est du cul. On avait un grand jardin, finalement. Voilà. Il suffit de faire un peu d'activité, puis on se dit, le jardin est très grand. Donc, voilà. Ça, c'est... Voilà. En gros, c'est nos travaux, travaux journaliers. Voilà, artisanat, et puis... Donc, les tricots, on en fait moins. On continue, mais un peu moins. Oui ?
J'ai une question plus sur l'oraison et sur le désert. Le fait que Dieu seul suffit, enfin, c'est peut-être de la curiosité mal placée, mais dans quelle mesure c'est difficile ? Est-ce qu'en fait... Parce que moi, mon ressenti, c'est qu'au bout de 10 minutes... ça y est, on est tout de suite déconcentré, etc., etc. Et est-ce que après plusieurs années de vie monastique, est-ce qu'en fait c'est toujours un vrai combat, ou est-ce qu'avec un peu d'habitude, ça se...
Alors, je vais faire une réponse de trappiste, parce qu'il y a un père abbé trappiste. Il a répondu à son novice qui posait cette excellente bonne question. Il lui a dit, t'inquiète pas, en fait, c'est vrai que les 50 premières années sont un peu difficiles. Donc voilà. Mais comme je ne suis pas encore 50 ans de monastère, je ne peux pas vous dire. Non, mais c'est sûr que l'oraison, c'est... enfin, je ne sais pas, je pense que c'est un peu comme des amoureux ou comme une maman qui aime son enfant... Il y a une forme d'attention à l'autre, de présence, d'avoir le cœur, je ne sais pas comment dire, orienté vers l'autre. Alors des fois, intellectuellement, on se dit qu'est-ce que l'autre fait, est-ce qu'il va bien, etc. Mais en fait, l'orientation du cœur, elle reste. Quoi. Vous voyez, Sainte Thérèse d'Avila, hein, qui était super imaginative et distraite. À un moment, elle dit, mais oui, mais dans l'union de volonté, quand vraiment on veut ce que Dieu veut, qu'on l'aime, et puis finalement, qu'on... C'est quand même, oui, le grand amour de sa vie, et ben, y a des distractions, mais elles nous distraient plus tellement, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Elles sont un peu à la surface, vous voyez, comme un poisson qui est bien au fond de l'eau, et puis bon, il sent qu'il y a des vaguelettes, il sent qu'il y a de la tempête, etc. Mais il y a quelque chose qui est plus profond, qui est par-delà, en fait, les Jean de la Croix, de manière plus technique, dirait, par-delà les facultés spirituelles. C'est-à-dire par-delà l'entendement, la volonté, la mémoire, enfin, ce qui s'agit, ce sur quoi on a un peu les manettes, etc. Ben, il y a quelque chose de plus profond dans l'être humain. Et ce puits plus profond, cette manière d'aimer plus profond, d'être attentif à l'autre de manière générale, ça se développe et finalement il s'agit d'essayer de rester là. Après, évidemment, enfin, même au bout de 20 ans de Carmel, je peux vous dire, ou 25 ans, je peux vous dire, quand je suis de cuisine et je suis à la prière, je me dis, oh, est-ce que j'ai vraiment éteint le gaz ? C'est une question classique qui peut être un peu stressante. J'ai pas envie de faire exploser le monastère. Ou le four, s'il y a le gâteau. Enfin, on a des distractions, mais elles nous distraient pas tant que ça. Voilà. Elles nous distraient de moins en moins, je voudrais dire. Parce que l'intéressant, il est ailleurs, en fait. Et on le sait de manière de plus en plus fondamentale, en fait. On avait une sœur... on n'a jamais eu de centenaire au monastère, mais on a quand même une sœur Jeanne-Marie, du Sacré-Cœur, c'était son nom complet, qui a vécu 99 ans et 11 mois. Et on commençait à préparer le centenaire, et boum, elle nous a filé. Ah, bon, c'est pas grave, je lui en veux pas. Mais elle était rentrée à 19 ans au monastère. Donc, autrement dit, 80 ans de présence au monastère, vous voyez, il y avait de quoi... Et ce qui était incroyable, c'est qu'elle, elle faisait des cartes à la main, vous savez, de la calligraphie et puis de la peinture de cartes, comme elle a... Ça, c'est l'humour du bon Dieu, vous savez, c'est comme Voltaire, toujours malade. Sœur Jeanne-Marie avait toujours été malade, toujours fragile de cœur, Donc en gros, dès son entrée, on pensait qu'elle allait mourir tout de suite, elle a juste 80 ans. Et donc, voilà, on lui faisait faire des cartes, parce que justement, il ne fallait pas qu'elle fasse des travaux de force. Donc elle a fait des cartes toute sa vie, et nous, on a des cartes magnifiques d'ailleurs. Hein, parce que... Et donc, moi, la petite vingtaine d'années que je l'ai connue au monastère, elle faisait des cartes, et une de ses cartes de prédilection, c'était « Dieu est amour », bien calligraphié, voilà, « Dieu est amour ». Et quand elle est allée à l'hôpital, donc à 97 ans, elle a, d'ailleurs, bon, je vous dirai ça après, elle a converti l'infirmière, enfin c'est très beau, elle faisait de l'apostolat à 97 ans, aux urgences, magnifique, elle a des yeux bleus magnifiques, alors tout le monde craquait. Et quand elle est revenue du monastère, une sœur lui a dit, alors, elle me dit, oh, c'est incroyable, j'ai découvert quelque chose. Alors on dit, qu'est-ce que tu as découvert, sœur Jean-Marie? Elle dit, Dieu est amour. Alors là, on était vraiment surpris, parce qu'on dit, c'est quand même une phrase qu'elle a copiée à peu près 15 000 fois dans sa vie. Mais c'était vraiment vrai. Enfin, je veux dire, la façon dont elle le disait, c'était pas une réponse réflexe. Il y avait quelque chose de très vrai, en fait. Elle avait découvert de plus en plus la profondeur de ce... Et elle l'a vécu de mieux en mieux, quoi. C'est-à-dire, elle devenait de plus en plus simple, elle avait de plus en plus d'humour, bon signe pour une carmélite, de plus en plus d'attention aux autres. Elle se plaignait de moins en moins de ses propres problèmes, mais elle était toujours, quand une jeune sœur l'accueillait avec un gros problème, elle l'accueillait toujours. Voilà. Et donc, on sentait quelque chose qui se simplifiait et qui. Je ne sais pas comment dire, quoi. Alors qu'elle avait passé 30 ans à demander d'aller aux matines et à vouloir absolument dire l'office et demander son bréviaire, etc. À la fin de sa vie, elle le disait toujours avec autant de fidélité, mais elle arrêtait de casser les pieds de la prieure, quoi. Donc on s'est dit, là, il y a vraiment une transformation, si vous voulez. On passait de la sœur vertueuse à une sœur qui était vraiment habitée par Dieu dans une sorte de joie simple, assez extraordinaire, quoi. Voilà, c'est l'état de prière profonde, je pense, par-delà, quand elle perdait un peu la tête, que ça ne faisait plus le jour où on était, que, bon, c'est pas grave, savoir le jour ou pas le jour, ça sera quoi, quand c'est que Dieu est amour. En plus, comme si, le vendredi, elle jeûnait, même âgée, on n'arrivait pas à ce qu'elle mange bien le vendredi. Là, c'était super, parce que l'infirmière, on lui disait, elle passait du jeudi au samedi, elle s'en apercevait pas, c'était super. Et donc voilà, nous ça nous servait beaucoup pour éviter qu'elle se restreigne. Mais voyez, enfin, l'état de prière, en fait, je pense que c'est un état où on est de plus en plus fasciné par celui qu'on aime, en fait. Et donc on reste avec ses petits côtés, ses oublis, ses distractions, ses machins. Comme les vieux couples, enfin, vous voyez, ils perdent de plus en plus les clés, ils ne savent même plus où l'autre a posé ça et tout. Mais en faisant un amour tellement fort que. Qui vivent l'un pour l'autre et qu'on n'imagine pas trop l'un sans l'autre, enfin, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose, quoi. Et je pense que c'est ça. Ce n'est pas les distractions le problème. Enfin, le problème, c'est qu'on a le désir toujours orienté vers Dieu, comme dit saint Augustin, on prie toujours, en fait. Si on ne désire pas vraiment, volontairement, quelque chose d'autre que Dieu, on prie toujours, en fait. Si on ne pose aucun acte volontaire contraire à l'amour, on aime toujours. Je pense que... Mais exactement comme quand deux êtres humains s'aiment, il ne s'agit pas d'avoir tout le temps, l'intelligence braquée sur l'autre. Enfin, ça, on ne peut pas, on devient fou, quoi. Enfin, forcément, si... Voilà. Même l'homme ou la femme la plus amoureuse, si elle se concentre sur un... Je ne sais pas quoi, moi... Une démarche par Internet, on est concentré sur la démarche par Internet. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus son mari ou son fiancé, ça veut dire qu'on est concentré. Enfin, donc la concentration de l'intelligence, l'imagination qui vagabonde ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça la prière profonde, donc ce n'est pas ça qui empêche la prière profonde. Quoi.
Donc, Est-ce que parfois il y a des régressions? Est-ce qu'il y a vraiment des régressions?
Alors, Sainte Thérèse prend bien soin de dire qu'il n'y a pas de progression linéaire. Parce qu'elle dit les âmes dans l'amour de Dieu ne croissent pas à la manière des corps. Donc, les corps, un enfant grandit, puis on change de taille. Donc, Sainte Thérèse précise bien que justement, c'est pas du tout ça. Et que. Alors comment, ben, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne en fait. Le Seigneur travaille, pour le coup, c'est comme un jardinier, elle prend l'image, il jardine, il défriche, il bêche notre âme, il enlève des choses, il enlève des mauvaises herbes un peu de surface parce qu'elles vont tout étouffer, mais après il laisse la racine et puis il la recherche qu'après, enfin bon, comme des arbres qu'on coupe et puis après il s'agit d'enlever la souche, c'est autre chose. Donc l'être se transforme en fait au cours de la vie. Et je pense que un bon test dans la vie spirituelle, c'est quand vraiment vous avez l'impression de ne pas progresser, ça c'est très bon signe, quoi. Parce qu'en règle générale, tant que vous avez l'impression de progresser, ça veut dire que vous vous regardez vous-même et vous êtes quand même un peu content de vous parce que vous progressez, quoi. Donc c'est pas mauvais, enfin, il faut faire des efforts et dire ah là j'arrive à maîtriser mon amour de la mayonnaise un peu mieux qu'avant ou du chocolat, enfin, je ne vise personne mais donc oui, enfin, voilà, on a besoin de faire des efforts mais à partir d'un certain moment il s'agit d'autre chose en fait, il s'agit de se sentir de plus en plus sa pauvreté devant Dieu et son inadéquation avec le mystère de Dieu, quoi. Donc une grandeur de Dieu qui nous donne le vertige complètement.
La progression, c'est une régression. Moins.
Oui, c'est d'être pris de vertige et donc de perdre un peu ses repères, quoi. Ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit, hein, c'est quand voilà, on est vraiment perdu et on se trouve vraiment nul et on se trouve vraiment indigne de Dieu. Et perdu, quoi. Enfin, c'est plus. Si ce qu'on a fait, c'est bien, pas bien. Mais en fait, on n'a de plus en plus qu'un seul désir, c'est de l'aimer. Mais je pense que dans les couples, c'est la même chose. Enfin, l'amour humain a quelque chose de ça. Pour ça, c'est un bon pédagogue pour l'amour de Dieu. Mais l'autre paraît de plus en plus un mystère. Enfin, à un moment, on croit se connaître un peu, on s'apprécie, mais à un moment, on sent que l'autre est complètement autre, et un mystère infini qu'on ne saisira jamais, en fait. Et il y a des moments dans les couples où on perd pied et on arrive à un niveau d'amour plus grand, mais où on a été complètement dépité, dérouté par l'autre, et où soi-même on s'est peut-être surpris aussi d'ailleurs. Enfin voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre dans la vie spirituelle. Donc, non, c'est pas une progression linéaire, ni en vertu, ni en sentiment d'amour, ni en maîtrise de soi, ni en. Même si tout ça est très bon, mais en fait, Dieu est infiniment plus grand que tout ça. Et donc, quand il nous pénètre, il fait sauter tous ces repères-là, quoi. Mais peu à peu. Donc, c'est. Voilà. Mais c'est à chaque fois différent, parce que je pense que Dieu fait que du sur-mesure, quoi. Et chaque âme est différente, en fait. Chaque personne est différente. Donc, il nous prend comme on est. Il fortifie ce qu'il peut fortifier, il transforme ce qu'il doit transformer, mais il le fait avec un tempo qui est le sien pour ne pas nous casser, quoi, parce qu'on n'a pas une plasticité infinie. Donc, il nous connaît mieux que quiconque, donc il nous transforme voilà, à sa manière. Et c'est vrai que c'est toujours différent. Jean de la Croix me dit à partir de la montée du Carmel, hein, à partir de là, plus de règles. Donc ça veut dire voilà, le travail de l'Esprit Saint est vraiment libre. C'est ça qui est beau. Enfin, si c'était un parcours vraiment balisé et puis stéréotypé, ça serait pas amusant, franchement. Mais des fois, c'est un peu déstabilisant. Mais c'est ce qui fait de la vie spirituelle une aventure, comme dit Jean de la Croix.
Et non, c'est fini.
On va être à rentrant.
Ah oui, peut-être il va falloir
y aller. Récupérer les clés du dortoir.
Ah oui, ça serait une bonne idée, ça. Bon, bah écoutez.
Merci beaucoup.
Ben merci à vous d'être venus. Bonne soirée dans le Seigneur. Et puis voilà, revenez si le cœur vous en dit. Maintenant, vous savez où est le Carmel. Voilà. Le soir, c'est exceptionnel, n'est-ce pas? On reçoit, mais enfin, dans la journée, pour les offices du jour, voilà, c'est. des gens qui viennent, quoi. Donc,
voilà. On peut venir pour les offices.
Oui, la messe, bon, la messe, ça a un peu tout, mais comme je dis, le dimanche, on fait grâce matinée parce qu'on a l'oraison à 7h. Donc, voilà, la messe à 9h. Voilà. Mais les autres jours, c'est un peu plus tôt. Mais vous pouvez venir, enfin voilà, la porte est ouverte. Il y a des gens qui viennent, hein, même pour la messe de semaine qui est à 8h. Voilà. Il y a des gens qui viennent. Voilà. Bon, mais que je ne vous mette pas en retard, parce que...